Good Morning Business, le grand débrief.
Le grand débrief à 8h41 avec Pascal Le Chevalier, consultant à WhatsApp Media, Jean-Philippe Cartier, président du groupe HUI Invest, et Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Alors évidemment, on va commencer par le débrief de l'interview de Benoît Cœuré, le président de l'autorité de la concurrence, qui a expliqué sur ce plateau pendant 20 minutes, pouvoir voir le podcast et les replays si vous le souhaitez, pourquoi il a interdit la fusion TF1-M6. Avec Laure, on était un peu étonné parce que au fond, il a expliqué qu'il a fait son boulot, qu'aujourd'hui, la photographie de l'environnement concurrentiel faisait que 70%, plus de 70% de pub télé, c'était trop pour un seul homme, pour un seul groupe. Mais que peut-être que d'un point de vue industriel, il aurait fallu faire autre chose, mais que ce n'était pas son boulot, c'est celui de Bercy, et que Bercy n'avait rien fait. On peut résumer ça comme ça, Pascal Le Chevalier ?
Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que les absents du dossier, mais qui sont quand même très très présents sur les plateformes américaines, ouais, ont quand même conditionné le rapprochement entre TF1 et M6, et qu'aujourd'hui ces plateformes continuent de se déployer,
bah oui,
alors que les pouvoirs publics depuis 10 ans le constatent et n'ont pas forcément...
Et le déplorent,
oui. Sauf qu'on n'a pas forcément pris les décisions qui permettaient de protéger tout l'espace européen numérique, en particulier digital, et qu'aujourd'hui, effectivement, cette décision semble aller un peu contre l'avis global d'un certain marché.
Il y a un argument, et Pascal, c'est vous qui allez nous dire si c'est vrai ou pas. Le président d'autorité dit la publicité de masse par la télé, des millions de gens en même temps, ça n'a rien à voir avec une publicité ciblée où on connaît exactement chaque individu qu'on va aller cibler par une pub individualisé. C'est vrai ça ou pas ?
Alors, c'est vrai aujourd'hui. Il faut savoir aussi que les chaînes de télévision travaillent avec un plan de test de la publicité adressée à travers les boxes des opérateurs qui sont majoritaires pour la réception de la télévision en France, et que tout ça va se confondre dans les prochaines années. D'autant plus qu'on a appris que Netflix et Disney allaient commencer à faire de la publicité. Et juste pour rappel, ouais, le chiffre d'affaires 2021 d'M6 est aux alentours d'1,4 milliard d'euros, et le chiffre d'affaires de Netflix en France et d'1,5 milliard pour l'année 2022. Donc on voit bien qu'on est sur des blocs qui s'opposent, sauf qu'en France, tout passe par la régulation et qu'aujourd'hui, l'autorité a décidé de ne pas donner suite à cette fusion.
Wilfried Galland, juste avant que Benoît Cœuré soit avec nous, vous étiez avec nous et vous nous disiez il a agi tout simplement comme un banquier central, c'est-à-dire qu'il a pris les faits, il a regardé les risques juridiques,
les
et
données.
Il a pris sa décision. On lui a posé la question, il a dit oui, c'est ça que je fais.
Ouais, exactement. Et en fait, ce qui est très compliqué quand on a ce type d'approche et cette mécanique intellectuelle profondément ancrée, c'est de se projeter dans un marché dynamique. Or, aujourd'hui, le sujet, c'est comment faire en sorte que le marché se structure pour préserver la concurrence de demain. Et non pas comment préserver le marché aujourd'hui aux dépens de la concurrence de demain. C'est ça le véritable sujet. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on a fait effectivement cette deuxième approche. Préserver à toute force ce qu'il y a aujourd'hui, en ayant une approche quand même très défensive, parfaitement justifiée et parfaitement documentée, effectivement comme un banquier central, tout était absolument fondé, mais sans voir qu'il y a des dynamiques qui peuvent tout remettre en cause d'ici 2-3 ans. Et d'ailleurs, quand on écoute attentivement ce qu'il donne dans ses interviews, y compris ce qu'il vient de dire sur ce plateau, il y a presque effectivement un peu comme un regret en disant bah moi je dis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Si des autorités politiques ont une vision différente et passent au-dessus, il fallait le dire. Ouais. Et en fait, il doit y avoir une séparation des rôles qui aujourd'hui n'a peut-être pas été complètement efficace.
Où est Bruno Le Maire, vous qui le connaissez bien, Jean-Philippe Cartier?
Oui. Non, je ne suis pas le représentant de Bruno Le Maire, mais en fait, quand l'État n'intervient pas, c'est problématique. Quand l'État intervient, c'est problématique. Moi, je donne ma vision, je ne suis pas expert média, comme tout le monde, mais mon avis, il est assez tranché. Je pense que on a une autorité de la concurrence qui fait son travail, qui doit arbitrer un environnement. Cet environnement, il était complexe. Il y avait 75% de parts de marché qui étaient prises par un acteur. Moi, je peux être annonceur dans certains de mes supports et les entreprises que je finance, que je dirige. Donc, je considère que, en fait, on parle comme si l'opération était terminée. L'opération TF1-M6, elle est terminée, mais il y a d'autres acteurs qui vont se positionner. Qui dit que les acteurs en lice demain ne seront pas meilleurs? Qui dit qu'un IL Media One avec des grands professionnels des plateformes ne sera pas encore plus à la hauteur? Ou un Bolloré, quand Bolloré a racheté Canal+, on critiquait, on disait ça va être n'importe quoi. Regardez le succès de MyCanal, qui est absolument prodigieux. Donc je pense que la décision, elle permet d'avoir une autorité qui arbitre, qui prend des décisions, qui préserve également. Moi, je vous donne un exemple personnel. Si vous m'accordez 2 minutes, j'étais le propriétaire d'une radio qui s'appelait MFM. Pendant quelques années, je l'ai racheté, je l'ai revendu. Quand je l'ai eu, je me suis retrouvé devant le CSA. Alors, je suis arrivé, je venais du digital où j'avais vendu mon entreprise. Je suis arrivé plein de volonté, plein de joie. Et puis, j'ai vu à l'époque, ça devait être Michel Boyon, qui m'a trouvé formidable, très gentil, et qui m'a dit à la fin, vous êtes formidable, mais vous ferez pas du tout ce que vous avez envie de faire. On n'est pas dans le digital et ça permet aux autres acteurs qui ont des radios avec des fréquences depuis des années, de pouvoir un peu être préservé. Je considère que c'est dans l'intérêt de notamment des annonceurs. C'était assez prévisible, en fait. Ça fait un an, moi, que j'entends de pas un certain nombre de gens.
Vous y avez jamais cru?
Moi, je connais pas un acteur qui a cru, mais dont des gens extrêmement bien informés, qui sont dans ce secteur de manière quotidienne. Donc, je crois pas que c'était un deal économiquement facile à faire.
Pascal Le Chevalier, personne n'y a cru, en fait. C'était mort-né, cette fusion?
Non, puisqu'ils ont décidé de travailler ensemble et de dépenser, je crois, beaucoup d'argent
en avocat,
pour cette fusion. Il y a aussi un point qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on oublie souvent le consommateur. Et le consommateur, il a une liberté de choix qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il passe beaucoup de temps sur les plateformes. On en parlait tout à l'heure, même certaines plateformes qu'on n'identifie pas vraiment aujourd'hui, par exemple comme TikTok, YouTube continue d'être très puissant, et que ça révolutionne le marché. Je rappelle que le marché publicitaire français en télévision, c'est 3,5 milliards d'euros par an, mais qu'il est déjà dépassé par la publicité digitale. Donc cette mutation-là, elle existe depuis des années, et qu'au final, les pouvoirs publics ont été plutôt sans doute spectateurs, et quand on arrive sur un dossier un peu tendu, forcément, il y a de la casse.
Allez, l'autre sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est le président de Patagonia qui a décidé de ne pas céder sa immense fortune, je crois 3 milliards, quelque chose comme ça.
Oui, je crois.
À ses enfants, mais à un trust et à une fondation et à des ONG.
À la nature, il dit. Et mon entreprise appartient à la nature désormais. Vous avez trouvé ça beau?
En fait, le discours, oui, magnifique.
Non, magnifique. L'action.
Ouais. Alors, c'est vrai. Non, mais
disons, le discours, ça veut dire qu'il y a un loup derrière?
Quand on regarde précisément l'architecture qui a été proposée. Alors effectivement, c'est une fondation, donc ça ne permet pas d'avoir une transmission directe en pleine propriété aux héritiers. Donc de ce point de vue-là, il y a aucun loup. En revanche, l'architecture qui a été décidée permet au trust qui est contrôlé par la famille de contrôler en fait la fondation et de contrôler la politique de la fondation. Donc je dis pas que c'est pas une mauvaise action du tout, et que c'est pas une bonne action, mais en fait. Les intérêts de la famille sont également préservés.
Y compris les revenus ?
Y compris une grande partie des revenus. Y compris une grande partie des revenus.
Moins beau que.
Y compris une grande partie des revenus.
Quand nous, on l'avait vendu.
Voilà.
Jean-Philippe.
Non,
je ne sais pas trop quoi vous répondre.
Vous allez faire la même chose avec
En tous les cas, la vraie question qui se pose, c'est avant de trouver si c'est moins beau, c'est déjà remarquable et je trouve exceptionnel ce qui a été fait, la manière dont c'est structuré. Il y a quand même 100 millions de dollars à minima qui devront être versés dans des associations qui sont déjà celles qui étaient déjà financées par le groupe Patagonia. Pour ceux qui connaissent la manière dont travaillait Yvon Chouinard, il ne faut pas oublier qu'à la base, avant de faire des vêtements, il avait travaillé sur des espèces de pieux en laiton pour je ne sais plus quelle matière, pour ne plus abîmer la roche, parce que c'est un montagnard et un fou de la nature. Donc il faut peut-être connaître le personnage avant d'en parler, mais c'est un personnage exceptionnel, incroyable, qui a un amour de la terre absolu. C'est un alpiniste, un montagnard, donc je pense que beaucoup plus loin que lui, et moi je trouve l'action remarquable, je ne vais pas rentrer dans des réflexions sur les trusts, la question c'est le rôle de l'entrepreneur. Je trouve que ça fait du bien d'avoir des gens qui postent ce genre d'informations, ce genre d'informations qui nous arrivent, parce que ça donne déjà une image de l'entrepreneur, pas tout le temps le patron, l'argent, on gagne, on perd. Bref, j'ai trouvé l'image très bonne, et je pense que nos générations, moi qui suis autodidacte, ça nous fait beaucoup réfléchir sur le sens du bien commun, de l'action, le passage, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière, la transmission. Donc je trouve que c'est une action, moi en tous les cas, on en a beaucoup parlé avec des amis entrepreneurs. Et je pense que on a déjà des vrais sujets, nous. Enfin, encore une fois, j'ai 47 ans, mais on se pose des questions de demain. Et je sans avoir peut-être le courage ou la manière de le faire d'un Yvon Chouinard complètement passionné par notre terre, je pense que ça pose des questions et ça amène une bonne image de l'entrepreneur et de ce que ça peut amener derrière et de sa responsabilité pour la suite.
Mais au-delà de la bonne image, Jean-Philippe Cartier, justement, on a la thématique de la succession dans les ETI, par exemple. Il y a la moitié qui vont devoir trouver d'ici 10 ans un repreneur. Vous dites, et souvent familial, enfin, en tout cas on privilégie cette option-là, vous dites que c'est une mauvaise idée ?
Non, je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise idée. Je dis que Patagonia, c'est une entreprise qui vaut 3 milliards. Donc c'est moi, pour l'avoir vu dans l'hôtellerie, dans des tas de secteurs, la problématique, c'est aussi la succession. Il y a des tas d'enfants. Moi, j'ai racheté des entreprises, de gens, les enfants ne veulent pas en entendre parler. C'est un sujet hyper fréquent. Donc, je privilégie évidemment la succession si elle peut avoir lieu familiale et si les enfants ont les reins solides et savent gérer la suite. C'est aussi tout ça. Mais en tous les cas, l'action d'Yvon Chouinard est assez remarquable.
Pascal Le Chevalier, vous aussi, dans vos dîners du samedi soir, on a parlé de l'action d'Yvon Chouinard.
Oui, on a vu le commentaire passer. Maintenant, la vraie question qui se pose dans le même ordre d'idées, c'est sur les médias, où souvent les transmissions d'entreprises sont beaucoup plus complexes.
On l'a vu chez Lagardère.
On l'a vu chez Lagardère, et souvent ça fait plus l'objet de raids ou d'attaques violentes que de transmission, quel que soit le mode, dans de bonnes conditions.
Comment ça se passe justement en France en ce moment ? Chez Bolloré, ça a l'air de se passer un peu mieux, même si c'est compliqué pour Vincent Bolloré de lâcher l'affaire quand même.
Oui, ben c'est un capitaine d'industrie, donc il a envie de lâcher l'affaire, il veut contrôler ce qui se passe. Mais je crois que quand on prend tous les grands groupes médias dans le monde, les papas, les patrons continuent d'avoir un œil sur le business et ils laissent les enfants. La famille Murdoch, c'est le cas. Enfin voilà, c'est, chacun fait... mais aime garder un œil quand même sur le business.
Wilfried.
Je pense que ce que dit Jean-Philippe est très juste. C'est-à-dire que toute la problématique, c'est la problématique de la pérennité et de la transmission. C'est-à-dire que tous ceux qui réfléchissent à ces problématiques arrivent à trouver normalement des solutions, ou alors se tournent vers effectivement des entrepreneurs qui vont leur trouver des solutions. Mais le sujet, c'est comment est-ce que on arrive à pérenniser un tissu industriel, ce qu'a réussi à faire les Allemands. Mais ils commencent à avoir des problèmes aussi, et donc une des solutions, c'est effectivement la solution autour des trusts, des fondations. Il n'y a pas de mauvaise solution là-dessus, simplement effectivement il faut regarder le détail. C'est souvent un petit peu plus compliqué que ce qu'on peut en dire au tout début.
Dernier sujet de la journée, la réforme des retraites. Les partenaires sociaux ont rendez-vous aujourd'hui au ministère du Travail. François Bayrou a dit qu'il ne faut pas passer en force. Ils ne sont même plus d'accord à l'intérieur de ceux qui étaient d'accord avant.
On sent que c'est le sujet majeur qui crispe l'intégralité à la fois du monde politique, du monde syndical et peut-être un petit peu du monde social français. Voilà, ça crispe tout le monde. Toute la question, c'est en fait, comme à chaque fois en France, on connaît là où on doit arriver, c'est-à-dire qu'on doit augmenter la quantité de travail globale dans l'économie française. On connaît un des leviers qui est effectivement faire en sorte d'avoir plus de gens au travail à la fin de la vie professionnelle. La question, c'est comment on le fait. Si on se met pas d'accord, effectivement, à un moment donné, il faut prendre une décision. La décision, c'est souvent un peu douloureux, mais il va falloir effectivement trancher.
Jean-Philippe Cartier, comment vous jugez-vous à l'intérieur de vos entreprises le climat social sur ce sujet-là ? Est-ce que, par exemple, si le gouvernement passe en force, comme l'envisage éventuellement Emmanuel Macron, c'est-à-dire un amendement devant le PLFSS cet automne, est-ce que, voilà, au moins ça sera fait ? Ou est-ce qu'il faut donner du temps au temps ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'en mars ?
Nous, le climat social, il est plutôt bon, puisqu'on a, encore une fois, on a travaillé sur les salaires depuis un certain nombre de temps, on a anticipé un certain nombre de choses, et on trouve que c'est plutôt serein. Pour autant, pour répondre avec une... Enfin, j'aimerais pas être le gouvernement, c'est un sujet hyper complexe, ça fait longtemps qu'on en parle, je vois pas bien comment on va le passer en douceur, c'est pourtant une réforme obligatoire avec l'assurance chômage. En tant qu'entrepreneur, on sait tous très bien qu'on doit travailler un peu plus. On le sait tous. Après, voilà. Après, c'est peut-être une minorité qui va bloquer, ça va être un sujet clé.
Mais on dit que c'est plus inflammable sur le sujet des retraites que l'assurance chômage. Il n'y a pas de manifestation pour défendre l'assurance chômage. Par contre, sur les retraites, ça prend et ça permet de faire la convergence des luttes.
Parce que la retraite, ça donne l'impression de travailler plus. Donc, enfin, vous avez compris. On part sur à quel moment on s'en va et on arrête. Donc, ça touche plus, notamment sur les métiers pénibles où ils sont prêts à faire pas mal de concessions et autres. Je pense que c'est le sujet le plus compliqué, mais il faudra bien finir par le passer à un moment ou à un autre. Donc, nous, on est tous favorables à ce projet de loi. En tous les cas, tous les entrepreneurs que je peux représenter le sont.
Mais y compris un amendement dans le PLFSS ?
Ouais.
Tant pis, on essaye.
À un moment donné, il faut bien que ça finisse par passer, parce que ça va faire quelques années.
Bon, bah écoutez, Wilfried, on va voir si quelle sera la solution retenue. C'est quand même bizarre de faire ça en même temps que l'assurance chômage, parce que on avait dit l'assurance chômage c'est la réforme de la rentrée, on va y aller, puis voilà.
Le MEDEF disait allons-y doucement.
Oui, mais en fait, le MEDEF disait allons-y doucement, mais je me souviens que le MEDEF disait aussi quand on sait qu'on ne va de toute façon pas se mettre d'accord, y compris en négociant pendant longtemps, autant trancher tout de suite. Et j'ai l'impression que le même raisonnement est en train d'arriver sur le dossier des retraites. C'est-à-dire que de toute façon, les crispations sont telles à un moment donné que toute négociation, toute concertation, quel que soit le mot qu'on lui donne, pendant des mois et des mois, de toute façon n'aboutira pas, parce qu'on sent qu'effectivement, le contrat, d'une certaine façon morale dans certaines entreprises, c'est j'accepte d'avoir peut-être moins de paye et un mode de management qui est parfois un petit peu ancien, mais à condition de pouvoir partir plus tôt. Donc si on remet ça en cause, j'ai véritablement un problème. On verra ce qui va se passer, mais à un moment donné, il va bien falloir trancher.
Bon, en tout cas, ça nous occupera les prochaines semaines. Merci beaucoup à tous les trois, Pascal Le Chevalier, Jean-Philippe Cartier et Wilfried Galland, d'avoir été le débriefeur du jour.